Chapitre 20. Alan et les McCrackers. Tout homme a trois vies, l'une publique, l'autre privée, et la troisième secrète. Gabriel Garcia Marquez. 1. Midwest. Avant de quitter le diner et de reprendre la route, Mark Karadec régla son plein d'essence et réclama une autre bière. À la radio, Van Morrison avait laissé la place à Bob Dylan, qui chantait Sarah, l'une de ses compositions préférées. Il se souvenait d'avoir acheté le 33 tours à l'époque, milieu des années 1970, album Desire, juste avant que le chanteur ne divorce d'avec sa femme, la fameuse Sarah de la chanson. Dans ce titre, Dylan convoquait les souvenirs, figeant des moments nostalgiques dans ses paroles poétiques. Une dune, le ciel, des enfants qui jouaient sur la plage, une femme aimée qu'il comparait à un joyau éclatant. La fin de la chanson était plus crépusculaire. La tentative de réconciliation avait échoué. Sur la plage déserte, ne restait plus qu'un bateau dévoré par la rouille. L'histoire de sa vie. L'histoire de toutes les vies. « Vous ne voulez pas goûter au plat du jour ?» dit la serveuse en posant devant Marc la bouteille de bière qu'il avait commandée. C'était une jeune femme plus très jeune que les habitués appelaient Ginger. Elle avait des cheveux courts, teints en rouge et des bras tatoués comme ceux d'un biker.
« Qu'est-ce que vous proposez ?»
demanda-t-il pour la forme.
« Poitrine de poulet aux herbes et mashed potatoes à l'ail. »«
Je vais passer mon tour, merci. »«
Très sexy, votre accent. »« Vous venez d'où ?» se renseigna-t-elle.
« Paris. »«
J'ai une copine qui s'y trouvait en voyage de noces pendant les attentats. » s'exclama-t-elle. « Ça craint. » Karadec n'entra pas dans cette discussion. Chaque fois qu'on évoquait le sujet devant lui, il avait envie de citer la phrase d'Hemingway. « Paris valait toujours la peine, et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez. »«
Qu'est-ce qui vous amène à Fort Wayne, Indiana ?»
poursuivit Ginger en voyant qu'il n'embrayait pas.
« Une vieille enquête. Je suis flic. »
« Et vous enquêtez sur quoi ?»«
Je cherche à retrouver un homme. » Un dénommé Alan Kowalkowski. Je pense qu'il doit vivre dans une ferme un peu plus loin.
Ginger hocha la tête.
Ouais, je connais cet enfoiré d'Alan. On était à l'école ensemble. Qu'est-ce que vous lui voulez?
Juste lui poser quelques questions.
Vous aurez du mal.
Pourquoi donc?
Parce qu'il est mort depuis 10 ans,
lâcha-t-elle, flegmatique. Mark accusa le coup. Il voulut relancer Ginger pour en savoir plus. Mais la serveuse était happée par d'autres clients.
Merde!
La nouvelle de cette mort compliquait sa théorie, mais ne l'invalidait pas. Mark pensait toujours que le mail envoyé par Florence Gallo avait atterri sur une boîte de messagerie inexistante. S'il ne connaissait pas grand-chose en informatique, il avait des réserves de bon sens. Dans le bar à huîtres, il avait eu l'idée de consulter l'annuaire téléphonique en ligne et quelque chose l'avait frappé. Hors liste rouge, sur toute l'étendue du territoire américain, il existait des centaines de Kowalkowski avec un I, mais seulement 4 Kowalkowski avec un Y. Et l'un d'eux s'appelait Alan et habitait ici, à la frontière de l'Ohio et de l'Indiana. Depuis qu'il avait fait cette découverte, une rengaine tenace s'était incrustée dans son esprit. Et si c'était cet homme qui avait reçu le message de Florence? Une semblable mésaventure lui était arrivée à lui 2 ans plus tôt. Un matin, il avait trouvé sur sa messagerie des photos impudiques accompagnées d'un texte plutôt salace adressé par une jeune femme prénommée Marie à son presque homonyme, un certain Mark Karadec avec un K, qui vivait à Toulouse et avait le même fournisseur d'accès que lui. Une gorgée de bière pour éclaircir ses idées. Et une nouvelle interrogation. Si cet Alan Kowalski était décédé, comment expliquer que sa ligne soit toujours référencée? Mark fit un signe pour appeler Ginger, mais elle préférait s'attarder avec un genou qui louchait sur son décolleté. Mark soupira et sortit un billet de $20 qu'il agita dans sa direction.
« Si tu crois que tu peux m'acheter !»
lâcha Ginger en accourant pour empocher l'argent. Karadec fut saisi d'un début de vertige. Il cligna des yeux et prit une longue respiration. Soudain, tout l'écœurait dans ce lieu. L'odeur de friture, la vulgarité ambiante, la médiocrité de ces gens enquistés à ce comptoir qui semblait être leur seul horizon.
« Parle-moi d'Alan, » demanda-t-il. « C'était un fermier ?»«
Oui. Il avait une petite exploitation qu'il gérait avec sa femme, Hélène. »«
Tu sais de quoi il est mort ?»«
Il s'est suicidé. Un truc horrible. J'ai pas envie de parler de ça. »«
Mark plissa les yeux pour déchiffrer la phrase tatouée sur le bas du cou de la serveuse. « We live with the scars we choose ». Pas totalement faux, mais pas si simple. Puis il sortit un autre billet que Ginger glissa immédiatement dans la poche de son jean. Alan n'avait qu'une passion dans la vie, la chasse aux cerfs qu'il pratiquait dès qu'il en avait l'occasion. Le plus souvent, il demandait à son fils de l'accompagner, même si celui-ci n'aimait pas trop ça. Son gamin s'appelait Tim. C'était un gosse formidable. Le genre à vous faire regretter de ne pas avoir d'enfant. Le regard de Ginger se perdit quelques secondes dans le vague avant de revenir à son histoire. Un matin, il y a 10 ans, Tim a refusé de suivre son père, mais encore une fois, Alan a fortement insisté. Il disait que grâce à la chasse, son fils allait devenir un homme, ce genre de conneries, vous voyez. Mark acquiesça de la tête. Leur dispute s'est prolongée en forêt jusqu'à un point de non-retour. Cette fois, Tim a tenu tête à son père et lui a balancé ses 4 vérités. Alors que son fils rebroussait chemin pour rejoindre la ferme familiale, Alan a continué à pister l'animal qu'il traquait depuis plusieurs heures. À un moment, il a cru entendre le cerf dans un fourré et il a tiré à l'aveugle. Vous devinez la suite ? Saisi par une vision d'horreur, Mark bredouilla.
Il avait touché son fils ?
Ouais. La flèche de l'arbalète a traversé la poitrine du gamin, au niveau du cœur. Tim est mort presque sur le coup. Il avait 14 ans. Alan ne l'a pas supporté. Il s'est tiré un coup de fusil le lendemain de l'enterrement de son fils. Mark soupira bruyamment.
Sale histoire, putain. Et sa femme ?
Hélène ? Elle habite toujours dans la ferme. Avant le drame, c'était déjà une fille étrange, solitaire, intello. Depuis, elle est devenue complètement givrée. Elle a laissé l'exploitation dépérir, elle vit dans la crasse, elle se biture du matin au soir.
Comment gagne-t-elle sa vie ?
Ginger cracha son chewing-gum dans la poubelle. Vous voulez la vérité ?
Au point où on en est ?
Pendant quelques années, elle a fait des passes. Pour les gars de la région qui voulaient tirer leur coup, le passage chez la veuve Kowalkowski était une solution pratique. Mark regarda la porte. C'en était trop, il fallait qu'il quitte cet endroit. Si vous voulez mon avis, continua Ginger, elle doit plus travailler beaucoup. Même les mecs en manque de baise sont pas prêts à se taper des mortes. 2. New York. Alan Bridges était contrarié.
Qu'est-ce que vous foutiez, Raphaël ? Ça fait plus d'une heure que je vous attends.
Je suis désolé, je vous expliquerai. Au dernier étage du Flat Iron, le bureau d'Alan s'était transformé en QG de crise. On avait punaisé de vieilles photos sur un panneau de liège, consigné des dates sur un tableau Velleda, déballé des cartons débordant de livres. Sur le mur, 3 écrans amovibles étaient reliés par Wi-Fi aux ordinateurs portables de 2 jeunes journalistes du Winter Sun. Alan me présenta plus formellement ses assistants, que j'avais déjà croisés le matin.
Christopher Harris et Erika Cross. Tout le monde ici les appelle Chris and Cross.
Cross était une belle rouquine dont les cheveux ondulaient sur les épaules. Chris, un gringalet mutique au look androgyne et au regard fuyant. Derrière le mur de verre, l'équipe de Muckrakers s'était déplumée. La plupart des journalistes avaient rejoint le Madison Square Garden pour couvrir la fin de la convention républicaine. Alan prit un ton grave.
J'étais sceptique sur ce que vous m'avez raconté. Mais j'avais tort.
Il désigna les cartons posés au sol.
On a suivi vos conseils. On est allé fouiller le garde-meuble de Joyce Carlyle et quelque chose de très étrange a retenu notre attention.
Il prit un ouvrage posé sur son bureau et me le tendit. Intitulé « The Unusual Candidate », c'était une biographie de Tad Copland.
Paru fin 1999, pendant la première campagne électorale de Copland au poste de maire de Philadelphie, expliqua-t-il. Le bouquin a été publié à compte d'auteur, avec un tirage modeste de 500 exemplaires. C'est le genre de livre politique hagiographique sans intérêt qui se vend généralement à la permanence des candidats et lors de leurs meetings.
Je lus le nom de l'auteur. Pepe Lombardi ?
Un ancien journaliste et photographe du Philadelphia Investigator. Une feuille de chou locale. Le type a suivi Copland depuis ses débuts en politique alors qu'il était encore qu'un simple conseiller municipal.
Je feuilletai le livre, puis l'ouvris à une page du cahier photo central marquée d'un post-it.
Vous la reconnaissez ?
Les 2 clichés dataient de la fin des années 1980, respectivement décembre 1988 et mars 1989, si on en croyait la légende. Ils mettaient en scène Joyce et Tad dans les bureaux de Take Back Your Philadelphia, l'organisation qu'avait créée Copland avant d'apparaître sur la scène politique. À cette époque, la mère de Claire était splendide, jeune, pétillante. Un corps élancé, des traits fins et réguliers, des dents blanches, de grands yeux verts en amande. La ressemblance avec Claire était flagrante. Les deux photos traduisaient une complicité évidente, mais je me méfiais des photos.
« On a fait notre enquête », reprit Alan. « Joyce a travaillé pour TBY pendant presque un an. D'abord comme bénévole, puis comme salarié. Qu'est-ce que vous en concluez ?
Vous êtes aveugle ou quoi ? Il se la tapait ou il avait l'intention de se la taper ?»
me lança Cross dans un élan aux accents assez peu féminins. « Ça me rappelle les photos de Clinton et Levinsky. Leur accolade sentait le sexe à 10 lieues à la ronde. » « Ce ne sont que des photos », rétorquai-je. « On leur fait dire n'importe quoi, vous le savez bien. »«
Attendez la suite »,
poursuivit Larousse.
« On a retrouvé la trace de Pépé Lombardi dans une maison de retraite du Maine. Il est âgé de 90 ans aujourd'hui, mais il a toujours les idées bien en place. Je l'ai appelé il y a une heure. Il m'a raconté qu'en 1999, 10 jours après la sortie du livre, Zora Zorkin, la directrice de campagne de Copland, lui a racheté l'intégralité de son stock, ainsi que tous les négatifs de ses photos.
Sous quel prétexte ? Alan reprit la parole. Officiellement, le candidat avait tellement aimé le livre qu'il souhaitait la parution d'une nouvelle édition, avec une préface qu'il aurait lui-même rédigée. Et le livre n'est jamais ressorti, devinai-je. Si, justement. Il a même été réédité plusieurs fois, mais dans les nouvelles éditions, les deux photos de Joyce avaient disparu.
Je me fis l'avocat du diable.
Il peut y avoir 1000 raisons à cela. Vous l'avez dit vous-même, si ces clichés sont équivoques, il n'est pas anormal que l'homme politique ait cherché à les faire disparaître d'une biographie, d'autant qu'il était marié. Sauf que ça s'est pas arrêté là, assura Alan en se retournant vers Chris et Cross.
Larousse flamboyante expliqua.
On a un peu fouillé dans les arcanes du web, notamment sur les sites de vente de livres d'occasion. Chaque fois qu'un exemplaire de l'édition originale refait surface, par exemple sur Amazon ou sur eBay, il est presque instantanément racheté pour une grosse somme.
Par qui ?
Elle haussa les épaules. Difficile de le savoir avec certitude, mais pas très compliqué à deviner. Pour la première fois, Chris, l'androgyne timide, sollicita la parole.
Il y a autre chose. À l'époque, certaines médiathèques ou bibliothèques municipales de Pennsylvanie avaient acquis la biographie. J'ai réussi à en contacter quelques-unes. On trouve bien la trace du livre sur leur catalogue en ligne, mais concrètement, le bouquin n'est jamais sur les rayons. Soit il a été perdu, soit il a été emprunté et jamais rendu.
D'un geste de la tête, Alan demanda à ses assistants de nous laisser. Il attendit que nous fussions seuls pour me parler franchement.
Bon, on ne va pas tourner autour du pot. « Raphaël, si Copland s'est donné tant de mal pour faire disparaître ses photos, c'est que non seulement il a eu une aventure avec Joyce Carlyle, mais surtout qu'il est le père de Claire.
Tout concorde.
Les dates de sa liaison supposée avec Joyce, le fait que la petite soit métisse, j'y ai pensé, bien sûr, c'est une possibilité. Ce qui me surprend, en revanche, c'est que vous m'assuriez que Florence enquêtait sur Joyce et Copland peu de temps avant sa mort.
Pourquoi ?
Florence et moi pensions la même chose à propos de la vie privée des hommes politiques. Elle ne nous intéressait pas. Nous considérions que le journalisme actuel était justement en train de crever à cause de ce voyeurisme hypocrite. Je me fous de savoir que le prochain président des États-Unis a peut-être eu une aventure extra-conjugale il y a plus de 20 ans. Ça ne le disqualifie pas à mes yeux pour diriger le pays.
Attendez, Alan, vous n'y êtes pas. Je pense que c'est Joyce elle-même qui, à l'époque, avait l'intention de révéler que Copland, le nouveau gouverneur de Pennsylvanie, était le père de sa fille.
Si elle voulait de la publicité, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que sa fille venait d'être enlevée et que l'enquête piétinait. C'est en tout cas ce que j'aurais fait à sa place. Médiatiser l'affaire à outrance dans l'espoir que l'on retrouve ma fille.
Le silence se fit dans la pièce.
Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire, Raphaël ?
Que Tad Copland a sans doute tué ou fait tuer son ancienne maîtresse.